La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis Patrick Saporito, membre de l'Église baptiste de Toulouse Métropole. Je fais partie donc de l'équipe des responsables. Il lui faut ce dernier smartphone, sinon il meurt. Lorsqu'elle aura enfin ce travail qui correspond à ses qualifications et avec un bon salaire, elle sera satisfaite. Quand il se mariera, tout ira bien, pense-t-il. Ses besoins sexuels aussi bien qu'affectifs seront comblés. Il aspire à être respecté par sa femme et ses enfants, et alors seulement il ne se mettra plus en colère. Lorsque son mari lui consacrera plus de temps, elle sortira moins avec ses copines. Il est chrétien, mais avoir Christ ne lui suffit plus. Voilà autant de désirs ou de besoins non comblés qui montrent des cœurs frustrés, même chez certains chrétiens. La question que tout un chacun s'est posée une fois dans sa vie, c'est « J'ai des besoins que je juge légitimes, comment les combler au mieux pour être heureux ?» Cette question est importante parce que la manière dont nous allons vouloir combler nos désirs ou nos besoins va déterminer notre vie tout entière, notre marche sur cette terre, soit en bien, soit en mal. Mais deux autres questions plus importantes que tout chrétien devrait se poser sont celles-ci. Jésus est-il venu pour répondre à mes besoins ou à mes désirs ? Quel est mon plus grand besoin ? Je vous invite à prendre dans vos Bibles la lettre de Paul aux Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 17, et je lirai jusqu'au chapitre 5, verset 2. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce, réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Jusqu'ici la parole de Dieu. De ce passage, nous pouvons affirmer que la grâce de Dieu transforme nos désirs, nos actes, nos paroles et nos relations dans l'Église. De quelle manière ? Eh bien, nous verrons cela en deux points. Premièrement, nous verrons en quoi nos désirs ont besoin d'être changés. Deuxièmement, nous verrons ce que signifie apprendre Christ, c'est-à-dire se dépouiller et se revêtir. Premièrement, je vous invite à voir en quoi nos désirs ont besoin d'être changés. On peut ne pas se sentir concerné par ces problèmes de convoitise, de colère, de mensonge, de vol, en pensant que c'est uniquement pour des non-chrétiens. Mais à qui s'adresse l'apôtre Paul dans cette lettre ? À une église, l'église d'Éphèse, d'arrière-plan non-juif, donc non-instruit dans la loi. À partir du verset 17, Paul exhorte, supplie même les Éphésiens de ne pas retomber dans leurs anciennes fautes. Verset 17, je le relis. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. » Fin de citation. Paul déclare, atteste solennellement au nom du Seigneur Jésus et en tant que témoin de Jésus ce qui suit, toute une liste de choses à faire et à ne pas faire dans la vie chrétienne. Pas seulement le dimanche, aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie d'église. L'insistance de Paul est telle qu'on peut comprendre, vous ne devez plus jamais poursuivre le vide comme le font les païens, ce qui est dépourvu de vérité, marcher sans but, tout en négligeant l'essentiel. Si vous êtes chrétien, votre vie a-t-elle changé depuis que vous l'êtes devenu? C'est Tertullien, un des pères de l'Église, qui a dit « On ne naît pas chrétien, on le devient ». Effectivement, ce qui caractérise les païens est leur vie sans Dieu. Ils se sont endurcis, nous dit le verset 18. L'endurcissement du cœur vient d'un refus répété et délibéré d'obéissance à Dieu, ce qui provoque un état d'ignorance et un manque d'intelligence avec les actes mauvais qui en découlent. Le mot « endurcissement » évoque la corne, une épaisseur de peau concentrée sur la main ou le pied en réponse à une agression répétée, ce qui fait qu'on perd toute sensation de douleur à cet endroit. L'endurcissement rend insensible, insensible à sa propre douleur et à celle des autres. Résultat, verset 19, je cite, « Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Fin de citation. L'idée ici est de se livrer à la luxure, sans la retenue qui vient de Dieu. L'endurcissement mène principalement au péché sexuel qui mène au jugement. Les murs de la ville de Pompéi sont couverts de scènes de pudeur perdue. Le verset 17 met ensemble impudicité et cupidité, parce qu'elles sont toutes deux de l'idolâtrie. Elles ne satisfont pas et désirent toujours plus de jouissance ou d'argent. Nous voilà au cœur du problème que nous avons tous et qui se trouve dans notre cœur. Ce problème s'appelle la convoitise, la cause des vols et impudicité. Je recite le verset 22 qui parle de se dépouiller à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Fin de citation. Le 10e des 10 commandements, en Exode chapitre 20 verset 17, est « Tu ne convoiteras pas ». Et il est déterminant parce que les autres commandements lui sont étroitement liés. Un enfant convoite la PlayStation de son ami, cède à la tentation de la lui voler, désobéissant ainsi au 8e commandement « Tu ne voleras pas ». Puis, lorsque ses parents lui demandent s'il sait quelque chose sur ce vol, il leur ment, désobéissant au 9e commandement de ne pas porter de faux témoignages, et aussi au 5e commandement qui est « Honore ton père et ta mère ». L'adultère, qui est interdit dans le 7e commandement, naît aussi de la convoitise dans le cœur. La désobéissance au 10e commandement entraîne la désobéissance aux autres parce qu'il concerne notre cœur. Tout commence dans le cœur, parce que c'est là que réside le péché, avant de se traduire en acte ou en parole. Convoiter quelque chose ou quelqu'un, c'est le désirer fortement parce qu'on se dit qu'on ne peut pas vivre sans, tel un besoin vital. Et le problème est que nous confondons parfois désir et besoin. Nous avons tous des besoins qu'on peut considérer comme légitimes. Par exemple, nous avons tous des besoins physiques vitaux, comme ceux de manger et de boire. Des besoins matériels. On n'imagine pas de nos jours un foyer sans machine à laver ou sans voiture, ou sans téléphone portable ou sans ordinateur, dans une société qui a intégré tous ces éléments. Nous avons aussi des besoins affectifs, bien sûr, celui d'aimer et d'être aimé. Et bien sûr, nous avons tous des besoins spirituels parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, selon Genèse chapitre 1, verset 27. Alors, quelle est la différence entre désir et besoin? Notre société de consommation a fait naître de nouveaux besoins que nous n'avions pas avant. Ou plutôt, elle a transformé la notion de désir en besoin, créant de faux besoins qui ne sont rien d'autre que des désirs égoïstes. Il est alors bien plus facile et légitime de les assouvir quand on les appelle des besoins plutôt que des désirs. Car alors on fait même des lois pour y répondre. Par exemple, en matière de besoins affectifs, il est facile de transformer des désirs sexuels en besoins qu'il est tout à fait normal et légitime d'assouvir par tous les moyens. Ou bien, certaines personnes refusent le mariage avec une personne du sexe opposé, mais veulent satisfaire leur désir d'enfant par des moyens détournés comme la PMA, privant ainsi des enfants de père. Qu'en est-il de l'intérêt de l'enfant qui a, lui, un vrai besoin, celui d'avoir un père et une mère? Qu'importe. L'important est d'avoir mes désirs égoïstes transformés en besoins légitimes assouvis. Ce sont ces courants de pensée qui ont cours aujourd'hui. L'important est de viser son épanouissement personnel, son bien-être, de combler tous ses désirs à n'importe quel prix. Vous avez remarqué que le rayon psychologie a beaucoup de succès dans les librairies, même chrétiennes. N'est-ce pas parce que des besoins nouveaux qu'on peut appeler psychologiques sont apparus même dans l'Église et qu'il s'agit de combler ? On trouve beaucoup de livres sur l'estime de soi, sur l'épanouissement, le bien-être, alors que la Bible parle plutôt de s'oublier soi-même. En tant que chrétien, nous avons à nous poser cette question. Qu'est-ce que je désire le plus au monde ? Désirez-vous plus de bien-être ou plus de sainteté ? Si la réponse est plus de sainteté pour la gloire de Dieu, alors amen. Si ce n'est pas le cas. Et si j'ai tellement envie de quelque chose que je finis par penser que je ne peux pas vivre sans, ni être heureux, ça devient de l'idolâtrie. Vous vous savez pardonner en Christ, mais vous avez un manque et vous finissez par penser « Christ ne me suffit plus ». Certains quittent même l'Église parce que leurs désirs ne sont pas comblés. Mais la cause du péché, ce n'est pas la solitude ou le manque d'amour ou une reconnaissance non comblée, non. La cause du péché est le péché dans notre cœur. Alors il est crucial de se rappeler que Jésus-Christ est venu pour nous sauver et nous guérir de nos péchés et qu'il nous faut, c'est là que j'aborde mon deuxième point, qu'il nous faut apprendre le Christ pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, c'est-à-dire se dépouiller et se revêtir. Voyons en quoi. Jésus est venu non pas pour répondre à tous nos désirs. Dieu ne nous doit rien. C'est nous plutôt qui avions une dette envers le Dieu saint à cause de notre désobéissance. Et Jésus est venu plutôt pour répondre à notre plus grand besoin, et notre plus grand besoin est d'être pardonné de nos fautes. Jésus, le Fils de Dieu, sans péché, a payé notre dette à la croix, nous délivrant ainsi de la condamnation que nous avions méritée. En croyant, si nous croyons en lui, bien sûr, nous sommes délivrés de cette condamnation. Chapitre 5, verset 2, que j'ai lu tout à l'heure, je le redis, « Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. » Fin de citation. Jésus a offert à Dieu son Père à la fois le sacrifice de son corps meurtri pour nous sur la croix, portant la peine de nos fautes, rendant ainsi possible notre pardon. Et il a offert le sacrifice de sa volonté par son obéissance jusqu'à la mort, rendant ainsi possible notre obéissance. Je cite dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 7, « Mais il, Jésus, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Fin de citation. Dieu nous demande de l'imiter, rien de moins. Paul le dit en Éphésiens 5, 1. Imiter Dieu. Impossible ? Non. C'est possible grâce à Jésus qui s'est dépouillé humblement de sa gloire céleste pour que nous nous dépouillions du vêtement de notre péché, de nos mauvaises habitudes, de nos mauvais désirs égoïstes, et ce quotidiennement. Ça s'appelle la repentance. Comme l'a dit Ed Welch dans son livre « Quand les hommes ont plus d'importance que Dieu », nos désirs égoïstes ne sont pas destinés à être satisfaits. Ils sont censés être mis à mort. Voici comment nous devons voir nos désirs égoïstes par la foi. Mort, crucifié à la croix de Christ, avec Christ. Voilà la seule solution à notre problème spirituel. Jésus n'est pas mort pour rehausser mon estime de soi, mais pour me pardonner mes fautes et pour briser la coupe de mes désirs égoïstes que je veux à tout prix remplir. Apprendre Christ, c'est donc apprendre à se dépouiller. Mais pas seulement, c'est aussi apprendre à se revêtir du caractère de Christ et de Christ lui-même qu'il s'agit de recevoir par la foi. Ainsi, Jésus s'est dépouillé pas pour nous laisser vides, mais pour nous enrichir, en faisant de tous ceux qui l'ont reçu des enfants de Dieu son Père, et ses frères et sœurs co-héritiers avec lui. Dieu veut nous remplir ainsi de son amour par le Saint-Esprit. Épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 5, je cite « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Fin de citation. Si nous cherchons à être remplis de nous-mêmes pour nous sentir heureux et satisfaits de nous-mêmes, nous ne serons jamais véritablement inondés de l'amour rédempteur de Dieu. Voilà pourquoi il faut d'abord se vider, se dépouiller de son moi égoïste. Apprendre Christ, c'est, verset 23, je cite, « être renouvelé par l'esprit dans notre intelligence ». Fin de citation. Et le verbe « renouveler » ici est à la forme passive, continuelle, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous renouveler, pas la nôtre. Quelle grâce! Cette grâce qui ne fait pas que nous sauver, mais aussi nous aide à nous dépouiller de notre moi et aussi nous aide à nous revêtir de Christ lui-même et à le suivre, le cœur transformé. Le vêtement, c'est ce qui se voit. Quel vêtement les autres voient-ils en nous? Celui dont on ne s'est pas encore dépouillé ou bien celui de Christ? Et on peut se poser cette question, quel changement visible la grâce de Dieu va-t-elle opérer dans nos vies? Eh bien, la grâce va transformer nos actions. N'étant plus sous l'emprise de la convoitise, le voleur va non seulement s'arrêter de voler, mais il va travailler, et non seulement travailler, mais donner généreusement à celui qui est dans le besoin. Et aussi la grâce va transformer nos colères et nos paroles. Peut-être vous luttez encore avec d'anciennes mauvaises habitudes ou certains traits de caractère comme la colère, et vous vous dites « un chrétien ne doit jamais se mettre en colère ». Pourtant, l'apôtre Paul dit au verset 26 « si vous vous mettez en colère, ne péchez pas ». Il s'adresse à des chrétiens. Et le verset 26 peut même se traduire à l'impératif. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Alors soyons réalistes, ça peut arriver. Toutefois, la colère n'est pas un péché. C'est ce qu'on fait avec qui peut le devenir. Le verset 26 fait référence à de saines et saintes colères, contre l'injustice et le mal sous toutes ses formes, ou quand des plus faibles sont menacés, ou quand la vérité est en jeu. Jésus s'est mis en colère contre les marchands du temple, sans péché pour autant. Ce sont des colères altruistes, pas centrées sur soi. Une fois, j'ai vu un frère se mettre en colère contre quelqu'un dans un week-end d'église. Mais avant le coucher du soleil, il avait demandé pardon publiquement à cette personne. Et c'est ce que préconise l'apôtre Paul au verset 26, je cite, « que le soleil ne se couche pas sur votre irritation ». Fin de citation. Et c'est aussi vrai, bien sûr, dans une relation de couple, de vouloir régler un différend sans tarder. Au verset 31 de notre texte, Paul dit aussi que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Est-ce que Paul se contredit? Non. La colère du verset 31 ici fait plutôt référence à des intérêts égoïstes qu'on défend par orgueil en se disant « je mérite mieux que ça ». Eh bien, dans ce cas, imitons Christ en nous rappelant qu'il n'a pas cherché ses intérêts personnels, mais il s'est dépouillé de sa gloire céleste pour nous enrichir de sa grâce. Quand quelqu'un nous a fait du mal, on prend souvent sur soi et on préfère se taire et bouder dans son coin ou dire du mal de la personne derrière son dos plutôt que d'aller la voir. Mais à l'inverse, on peut aussi exploser d'une colère non maîtrisée, laissant ainsi le champ libre à l'œuvre destructrice du diable. Qu'est-ce qui vaut le mieux? Ravaler sa colère dans l'amertume ou bien lui laisser libre cours en explosant? Ni l'un ni l'autre. Alors comment faire? Eh bien, la clé, elle est dans les versets 24 et 25. Je cite « revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Fin de citation. Les mensonges, ce sont aussi des demi-vérités, des promesses non tenues, des exagérations, trahisons, flatteries. Autant de choses qui font naître des colères et provoquent la méfiance, alors que la vérité produit la confiance. Le mensonge n'a pas sa place dans la vie du chrétien, parce que Jésus vit en lui par son esprit, et que Jésus est la vérité. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit de lui-même, je cite, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Fin de citation. Là encore, il s'agit de se dépouiller du mensonge et de revêtir Christ, qui est la vérité. Alors, lorsque nous avons un différend avec quelqu'un, plutôt que de bouder ou de l'ignorer, ou d'exploser de colère ou de dire du mal derrière son dos, la bonne démarche est de prier, d'aller le voir et de lui dire la vérité. Oui, la vérité, mais attention, avec amour. La même épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 15, nous dit « Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Fin de citation. Et cela devient possible en revêtant Christ et en l'imitant, parce que la vérité et l'amour sont indissociables et sont réunis en sa personne, pleine de grâce. Et aussi la grâce va rendre nos paroles fructueuses de stériles qu'elles étaient, donnant elles-mêmes la grâce. Je recite le verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Fin de citation. Vous remarquerez le « s'il y a lieu ». Des paroles de grâce sont bien choisies, dites au bon moment. Elles édifient, apportent une bénédiction, répondent à un besoin présent. Ce ne sont pas des généralités. Alors, dire la vérité, oui, mais dans l'amour. Chapitre 5, verset 2 de notre texte, Paul nous dit de marcher dans l'amour. C'est cette démarche de confrontation dans la vérité et dans l'amour qu'on a tant de mal à faire, qui va pourtant faire grandir les deux parties, offenseur et offensé. Parce que l'offenseur a besoin de demander pardon et d'être pardonné. Et l'offensé a besoin de lui pardonner. C'est ce à quoi nous encourage le verset 32. Je cite, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Fin de citation. Oui, la même grâce dont nous avons été l'objet en Jésus-Christ, en croyant en lui, va nous aider à être compatissants. Tout le contraire d'endurci, à manifester de la compréhension. Bref, à nous pardonner réciproquement. Tout le contraire de la vengeance. Alors, ne regardez pas à vous-même, ni à vos erreurs passées, mais à Christ. Quelqu'un a dit, le passé, Dieu le pardonne, le présent, Dieu le donne. Voilà la grâce de Dieu.
Pendant des années, on dit que dans la vie il y a deux tragédies. La première, c'est de ne pas obtenir ce qu'on désire, et la deuxième, c'est de l'obtenir. Quand on ne sait pas où on va, pourquoi courir pour vite y parvenir? Tant bien ce que l'on voit, faut-il en pleurer ou faut-il en rire? On dit que dans la vie, il y a deux tragédies. La première, c'est de ne pas obtenir ce qu'on désire. Et la deuxième, c'est de l'obtenir. Dans ton cœur de l'amour pour le Seigneur des Seigneurs, la satisfaction de la vie ne sera plus jamais ta tragédie. Oh, oh. Tu diras dans ma vie,